L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Ce jeudi 19 décembre au matin, le Conseil régional des Pays de la Loire s'est constitué en séance plénière pour procéder au vote du budget de la région pour 2025. Christelle Morancet, la présidente de région, prévoit un plan de 100 millions d'euros d'économies, dont 82 millions dès 2025. Ces économies passent notamment par la suppression des subventions accordées à de nombreuses associations et structures dans le domaine de la culture, du sport, de l'égalité hommes-femmes, de la solidarité ou encore des missions locales. 2443 emplois seraient menacés. Alors malgré des protestations, non seulement de la part des principaux concernés, mais aussi de représentants politiques, y compris des tacles issus de son propre camp, Christelle Morancet n'en démord pas, il faut faire des économies. Cette actualité régionale se déroule en pleine crise politique nationale, alors que le gouvernement Bayrou, en cours de constitution, est déjà menacé de censure par la France insoumise et que les autres forces de gauche, ainsi que le Rassemblement national, attendent une politique de rupture avec le macronisme. Il pourrait également, le cas échéant, basculer vers la censure. Bonjour Marietta Caramanli.
Bonjour à tous.
Vous êtes députée socialiste de la deuxième circonscription de la Sarthe. Vous êtes donc, si je puis dire, sur les deux fronts en tant qu'élue au sein d'un département de la région Pays de la Loire et donc élue présente à l'Assemblée nationale. Alors on va d'abord revenir sur ce budget régional qui inquiète tant les associations ligériennes. Alors d'abord, tout simplement, quelle est la position du Parti socialiste vis-à-vis de ce budget ?
Alors, le Parti socialiste, je pense qu'il s'est exprimé. Moi, je ne peux pas parler pour le Parti socialiste. Je pense que il est représenté par la conseillère régionale, donc je pense que c'est plutôt elle de dire, mais je crois que tous, je peux quand même me permettre de dire cela, que toutes les forces politiques de gauche se sont mobilisées aux côtés des associations et des personnels qui sont touchés par ces décisions. Il y a eu aussi un rassemblement autour des missions locales qui représentent 500 000 euros de suppression d'aide, d'accompagnement des missions locales. Or, la formation, ça fait partie quand même des compétences de la région. Et donc, le Mans Métropole, il est touché. Mais toute la Sarthe est touchée, je dirais, en premier. Et puis, aussi, tout le secteur associatif, de solidarité, de culture, de sport. Donc, finalement, le mouvement continue. Je sais que j'ai suivi un peu depuis le Mans. La séance un peu qui s'est passée aujourd'hui,
la séance plénière du comité régional.
Voilà, tout à fait. On avait demandé dans un premier temps de repousser parce qu'il n'y avait pas besoin de discuter le budget forcément le 19 décembre. Ça pour contenu la situation d'ailleurs nationale, on aurait pu attendre le début de l'année pour aborder finalement le volet subvention. Et puis ces décisions ont des conséquences aussi sur d'autres collectivités, parce que quand vous avez un conventionnement avec des associations et également avec des collectivités, et quand vous vous retirez de cette convention-là, bien sûr, c'est difficile pour les autres de pouvoir continuer. Heureusement, elles vont continuer à le faire. C'est le cas de la ville et de Le Mans Métropole qui a été annoncé par M. le Président et maire. Et voilà aussi, ça peut avoir des impacts et des impacts, je dirais, des conséquences dévastatrices, je dirais, du secteur. Parce que moi, je me suis permis de lui écrire. J'ai fait un courrier.
Vous avez pu la contacter, vous avez pu discuter avec Christelle Morancet, sur certains points.
Je lui ai dressé un courrier. Pour lui soulever finalement tous ces problèmes-là et lui dire que finalement l'attractivité de la région s'appuie également sur l'emploi, que ces secteurs portent dans l'ensemble de la région. C'est l'attractivité, c'est aussi la culture, c'est aussi le sport. Et donc effectivement, c'était une mauvaise décision d'aller chercher à faire ces coupes qui n'étaient pas autant demandées dans l'effort national. Et donc, il faut pas faire du zèle, donc, je pense. Mais c'est une mauvaise décision.
On va redonner quelques éléments aux auditeurs. La première séance de vote du budget a eu lieu ce matin, donc le jeudi 19 décembre. Donc la suite aura lieu demain, le vendredi 20. Une importante manifestation des acteurs provenant des différents secteurs touchés par les coupes a eu lieu à Nantes, devant l'hôtel de région, encadré de CRS et de drones. Le CESER, le comité comité économique, social et environnemental régional, a publié un rapport sévère sur ce budget et souligne le climat anxiogène que ces annonces suscitent. Pour autant, la majorité de droite et du centre forme front uni avec la présidente. Cela fait un mois que Christelle Morançais a fait l'annonce de ces coupes budgétaires qui ont immédiatement attisé les plus vives réactions au sein du milieu associatif et culturel, et ce durant les 4 semaines qui ont suivi. Pourtant, la présidente de région n'a reculé que sur un point. Les 100 millions d'euros d'économies ne seront atteints qu'en 2028, avec un objectif réduit à 82 millions pour 2025. Alors, Christelle Morançais dit assumer ses choix. Qu'est-ce que vous pensez de cette position ?
Écoutez, assumer dans un déni et dans un aveuglement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas preuve de responsabilité. Honnêtement, assumer quoi ? Assumer une décision personnelle ? Assumer quoi ? Finalement, de mettre au chômage des personnes, assumer quoi ? C'est de, finalement de supprimer toute une série d'actions culturelles, sportives. Assumer quoi ? C'est la supprimer des crédits pour des missions locales qui touchent en plus, je dirais, un département comme la Sarthe qui connaît très bien et qui finalement c'est un des départements qui a le plus de problèmes, qui souffre au niveau de l'emploi, qui souffre au niveau de la réussite scolaire, etc. C'est là qu'il faut venir enlever 500 000 euros. Bref, non, il ne faut pas croire qu'en disant qu'on assume, qu'on est responsable. Pas du tout. Et c'est la décision qui a été prise. Moi, je suis vraiment, je n'accepte pas ces façons de montrer qu'ils sont ceux qui assument, c'est des bons élèves. Non, c'est pas des bons élèves. Le gouvernement n'a pas demandé en plus à l'époque 40 millions d'euros. Voilà. Donc elle passe à 100 millions, en ayant appris ensuite qu'il y avait même une version de 150 millions. Peu importe. Donc effectivement, c'est un choix néolibéral. Voilà, et que peut-être elle assume maintenant d'être une néolibérale, clairement dit, au moment où on annonçait, il y a quelques mois et quelques semaines, le contraire sur les ondes, le contraire dans des revues publiées et qui sont distribuées un peu partout, y compris à Paris.
Mais alors, surtout qu'elle n'est pas toute seule à assumer ce choix, puisque le conseil régional est composé aux 2/3 d'une majorité en accord avec la présidente de région. Dans ces conditions, il y a quand même peu de chances que ces budgets ne soient pas votés tel qu'il est souhaité par Christelle Morançais, ou en tout cas tout comme. Et si ce budget est voté, si effectivement la mission locale du Mans perd 282 000 euros, si les quinconces et les spales en perdent 96 000, le plongeoir La Cité du Cirque 100 000, si le MSB en perd 140 000, le Mans TV 40 000, les jeunes agriculteurs 40 000 aussi à l'échelle régionale, si les projets de Le Mans Métropole sont menacés d'une perte de 2 400 000 euros sur les demandes de subventions, qu'est-ce qu'on pourra faire en fait ? Quels recours seront encore possibles ?
Écoutez, quel recours ? Je pense d'abord à ce qu'on a évoqué aussi. Il est important que les différents acteurs, collectivités, décideurs, se mettent en dialogue avec elle et qu'ils lui montrent et qu'ils expliquent qu'il faut qu'elle revienne sur sa décision. Il faut accompagner les associations, les différents secteurs qui sont touchés par également des initiatives venant des responsables élus, pourquoi pas, de ces collectivités qui ont contractualisé avec elles.
Mais une fois que le budget est voté, est-ce que c'est seulement possible de revenir sur ces décisions ?
C'est des décisions modificatives qui peuvent venir. Mais en fait, c'est pas une façon de gérer une collectivité et des projets en venant sur les décisions modificatives. Donc voilà.
Mais quand on voit l'absence de discours et quand on voit le fait qu'elle a quand même très peu écouté l'opposition qui lui a été faite, qui a été quand même assez massive, qu'est-ce qui vous fait penser que plus des discussions, si quand bien même elle accepte de discuter, l'amèneront à changer d'avis?
Écoutez, moi je considère toujours qu'il est important de garder des espaces de dialogue. Après, il faut être deux pour discuter, il faut être deux pour débattre. Et effectivement, que si effectivement il n'y a pas de réponse de sa part, effectivement, on entre dans une période de sourd. Voilà, c'est tout. Mais malheureusement, il y a aussi cette tendance un petit peu aujourd'hui, je dirais au niveau même national, ou des forces politiques, des élus, qui ne veulent pas être en échange et en discussion pour pouvoir prendre les bonnes décisions et partager un peu les analyses. Est-ce que c'est l'air du temps ? Je n'en sais rien, je ne le résume pas à cela. Je trouve qu'il y a toujours mieux à faire et on gagne plus à échanger et discuter et chercher à convaincre et prendre une décision qui peut être pas forcément celle initialement prévue que rester chacun sur sa position.
Et bien justement, on va y venir à cette échelle nationale. Parce que, est-ce que les associations, le monde de la culture vont aussi souffrir de coûts budgétaires du côté de l'État? En fait, pour l'instant, la politique du nouveau Premier ministre François Bayrou reste assez floue. En tout cas, l'Assemblée est toujours aussi divisée, peut-être même plus encore depuis la nomination de François Bayrou. Des tensions notamment se sont fait sentir au sein du NFP, le nouveau Front Populaire. D'un côté, les socialistes qui avaient amorcé un pas vers une participation au gouvernement avant de se rétracter, remarquant peut-être que la France insoumise ne leur pardonnerait pas, Marietta Caramanli.
Oh, écoutez, je vais vous dire honnêtement. Ce que je pense de tout ça, en fait, nous sommes dans une période où les décisions du président ont finalement des conséquences sur le Parlement et sur les relations, bien sûr, aussi entre les groupes. En fait, aujourd'hui, nous sommes face à un président de la République qui est dans un déni. Il n'accepte pas qu'il a perdu et qu'effectivement, il continue à nommer des personnes qui, malheureusement, ne représente pas ce que la population a voté. Le NFP, le Nouveau Front Populaire, il a eu la capacité, et je le dis et je le salue depuis le début, de se réunir dans le respect de ses différences. Il y a toujours des couacs, il y a toujours des propos qui peuvent plaire ou déplaire aux uns et aux autres. Mais, au fond, il y a eu vraiment un rassemblement des gauches. Et ce qui a permis de gagner et d'arriver à ce que nous sommes aujourd'hui dans le Parlement. Il tente bien sûr toujours à diviser, d'accord ? Mais il a fait la même chose aussi avec la droite, mais il ne s'attaque jamais au Rassemblement national. Donc, moi, je pense personnellement, je le dis et je le porte aussi auprès d'autres collègues, on peut avoir une capacité à travailler de manière plus large, s'il faut finalement ce qui est demandé un petit peu par la population, parce qu'ils sont inquiets, ils n'aiment pas l'instabilité, ils veulent chercher de la justice, et donc on est en capacité, quand on fait adopter des textes transpartisans à l'Assemblée nationale, ben de continuer aussi à discuter de manière transpartisane sur les préoccupations, les premières mesures nécessaires pour la population, sur des textes très concrets.
Oui, mais le NFP ne cesse de répéter qu'il veut une rupture avec la politique macroniste. Mais comment envisager cette rupture si on laisse se constituer un gouvernement exclusivement composé du groupe de la coalition présidentielle et de la droite? Parce qu'en refusant de participer au gouvernement Bayrou, est-ce qu'on permet pas en fait la continuation de cette politique d'Emmanuel Macron? Donc en fait, la question qui se pose pour la gauche aujourd'hui, il me semble, c'est la suivante: est-ce qu'on peut toujours rester dans la pure et simple opposition, et est-ce que ça n'est pas contre-productif par rapport à l'intérêt des Français?
Écoutez, j'ai qui a essayé de faire le GDR, le groupe écolo et puis le groupe socialiste et apparenté depuis le début. Ils avaient dit que effectivement, ils pouvaient participer à un gouvernement à un moment donné sur les lignes rouges qui étaient exprimées, c'est-à-dire le programme, et pas que le programme, mais les premières mesures nécessaires, les premières priorités qui étaient exprimées à travers le NFP. Déjà, le président n'avait pas répondu à cela. Donc, la faute, c'est pas forcément au NFP qui propose et qui finalement le président, il vient avec une réponse qui était celle de M. Barnier, du premier gouvernement Barnier et Retailleau. Et aujourd'hui, elle n'a rien compris encore et effectivement, il vient avec une nouvelle personnalité qui est celle de Bayrou, qu'on peut pas dire que rassemble énormément, qui n'a pas encore de gouvernement, qui a voulu jouer aussi cette semaine à une séance de questions au gouvernement, mais qui, honnêtement, le résultat n'était pas très positif pour lui. Dans une situation en plus de crise pour nos compatriotes mahorais en Mayotte, enfin une catastrophe. Voilà, donc je trouve qu'on a affaire à un président qui ne tire pas les leçons de son échec. Il fait une dissolution, il nomme un premier gouvernement et il continue avec un deuxième. toujours sur les mêmes bases erronées. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ?
Alors, on est,
qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
On est un peu pressé par le temps, Marietta Caramoli. Une dernière question. Mercredi 18 décembre, je recevais donc Maëlle Briand, porte-parole de LFI en Sarthe, qui a clairement dit que l'objectif de LFI, c'était, au-delà même de la motion de censure envers le gouvernement de François Bayrou, c'est carrément de pousser Emmanuel Macron à la démission. Est-ce que c'est aussi l'objectif du Parti Socialiste ?
Écoutez, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Honnêtement, j'apprécie beaucoup Maëlle Briand, mais honnêtement, je pense pas que dans nos institutions aujourd'hui, la destitution du président apportera une solution. La question, c'est à retrouver ce qu'on avait commencé déjà à retravailler, et c'était ma première proposition de loi sur l'équilibrage des institutions, l'équilibrage de pouvoir de la Ve République. Donc, il faut trouver les initiatives à prendre. Et je pense que l'élection du président dans 2 ans, en fait, c'est une échéance qui permet de donner la possibilité à la population de choisir. C'est plutôt se concentrer à avoir des bons candidats et un rassemblement, je dirais, des gauches pour un candidat. C'est moi, ma position. Là, ce n'est pas celle de ma parti. De toute façon, je ne sais pas ce que les autres pensent. Mais que de finalement de se diviser et de se tromper de calendrier. Je pense qu'en discutant entre les différentes forces politiques, nous pouvons arriver à se fixer un calendrier commun. Après, il y aura certainement des partis qui ne seront pas d'accord forcément sur le calendrier
et
sur la méthode.
Je vous remercie, Marietta Caramoli, députée socialiste de la deuxième circonscription de la Sarthe. Merci beaucoup.
Socialiste et apparenté. Merci.